Question d'Islam par Ali Ben Shir. Aujourd'hui, nous parlons de l'imamat, de la vocation de l'imam, de son statut, de sa mission, avec le cheikh Tariq Abounour, imam théologien, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Et c'est avec plaisir que je vous reçois, cheikh Tariq Abounour.
Merci.
Merci à vous. Merci vraiment de nous faire l'amitié de venir et de parler de votre vocation, parce que c'est plus une notion de vocation qu'une notion de profession. Sur ces questions-là, nous reviendrons. Vous présidez donc cet institut d'enseignement supérieur, ô combien est nécessaire sur la chose islamique, sur le fait islamique, notamment à Paris. Dans la toute première phase de notre émission, si vous voulez bien nous donner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un imam, le rôle de l'imam, l'imama comme charge et comme discipline, et comment ça s'est fait à travers l'histoire? Et puis nous venons à ce qui nous intéresse maintenant.
Alors, évidemment, le mot imam nous rappelle évidemment la première imama, qui était celle du prophète de l'islam, du dernier messager. Cette fonction englobait au départ, au-delà même de la simple direction de la prière, la fonction évidemment temporelle et spirituelle. Le prophète étant à la fois un guide, un modèle pour les musulmans, et il a cumulé à ce titre-là une fonction d'imam qui est tout simplement, si on veut le traduire de façon littérale, guide.
Ensuite, celui qui est à la tête de.
Qui est à la tête de, guide, modèle, à la tête de. Donc, dans le Coran, on nous dit à Ibrahim, une figure évidemment connue de toutes les religions. J'ai fait pour toi un imam. Aux gens, c'est-à-dire un guide, un modèle, de par ta sagesse, de par ta spiritualité, de par la grandeur de ton âme. Et justement, à travers l'histoire de l'islam, cette fonction va évoluer, notamment donc à partir de l'époque omayyade abbasite, où les deux pouvoirs vont être dissociés, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Après les quatre califes,
vous dites qu'ils sont dissociés, parce que dans la doxa droite générale ici, c'est qu'il y a une telle collusion qu'on peut pas les distinguer. Mmh. Alors qu'effectivement, et l'imam que vous êtes, vous précisez qu'il y a en tout cas au moins une distinction entre la charge pontificale, si je puis dire, la charge de l'imam et celle du prince.
Mais écoutez, jusqu'au Salajika, c'est-à-dire la fin des Abbasites, le déclin de l'empire Abbasite, il y avait le calife qui était, on va dire, le dirigeant, qui cumulait aussi cette fonction d'amir et d'imam des croyants. Mais en réalité, moi je dis que c'est même bien avant, parce que déjà à l'époque omayyade, les woulets, les gouverneurs, désignaient des imams qui n'étaient pas forcément des gouverneurs. Donc effectivement, on avait cette distinction qui était déjà bien apparente. Ensuite, évidemment, dans le temps, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'imama aujourd'hui, stricto sensus, c'est diriger la prière des fidèles. Avec un certain nombre de conditions qu'on peut trouver dans les livres de jurisprudence, avec des variantes selon les écoles. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la question que vous avez posée sur la vocation. Tout simplement, les jurisconsultes d'avant ont divergé sur la question du salaire de l'imam déjà. Est-ce que l'imam peut avoir un salaire pour cette fonction ou non?
Doit-il être rétribué, rémunéré, ou c'est à titre gracieux?
On parle d'une rémunération pécuniaire, évidemment. Aux premières années de l'islam, il n'était pas rémunéré, il n'y avait pas de fonction proprement dit, c'était le plus versé dans les textes scripturaires, le plus sage, et si ils sont tous pareils, le plus âgé, etc. Donc un certain nombre de critères qualitatifs. Il y a eu la question de rémunérer l'imama assez tôt, dès les premiers siècles, et il y avait je vais pas dire de consensus, mais au moins une espèce de consensualité sur la question de sa rémunération. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça l'empêche de faire autre chose. Et nous avons besoin dans notre société plurielle, dans notre société complexe, d'avoir quelqu'un qui, au-delà même de la direction des cinq prières, puisse répondre aux questions légitimes des fidèles, puisse arbitrer, puisse être le confident, puisse être aussi le conseiller matrimonial, le conseiller des fidèles, etc. Donc, il cumule l'imam, au-delà même de la simple direction de la prière, plusieurs autres fonctions, plusieurs autres charges, d'où la notion de vocation, parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup d'altruisme, ça demande une moralité, justement, et ce qu'il s'agit d'une responsabilité, d'une très lourde responsabilité. Et à ce titre, on lui a accordé un salaire, ce qu'on appelle en arabe l'imam al-ratib, l'imam salarié officiel, qu'il soit dirigeant des cinq prières ou qu'il soit aussi imam prêcheur, c'est-à-dire qui prêche l'office du vendredi, qui, je le rappelle, est évidemment extrêmement importante. C'est la prière capitale de groupe en islam chaque vendredi.
Ce qu'on appelle la prière de congrégation, ou de rassemblement. Et c'est l'imam qui prononce le prône ou le sermon qui serait, je le dis au conditionnel sous votre contrôle, un peu plus gradé, si je puis dire, que le simple imam qui dirige les cinq prières.
Alors, il y a beaucoup de confusion, même chez nos co-religionnaires, entre l'imam, le savant, le prêcheur, le da'iya, c'est-à-dire celui qui fait l'appel à Dieu, le prédicateur. Oui. Donc, il y a beaucoup de confusion, Jean, que je vous remercie d'avoir posé cette question pertinente, parce que tout simplement, il faut clarifier qui est l'imam. L'imam, au sens stricto sensus, c'est celui qui dirige la prière. Donc, il n'a pas besoin d'être un savant, il n'a pas besoin d'être un pédagogue dans l'absolu. Néanmoins, celui qui prêche le vendredi, c'est-à-dire l'imam prédicateur, doit avoir un certain bagage scientifique et en plus une certaine sagesse pour que son prêche du vendredi soit utile, pertinent, contextualisé, qu'il soit utile pour les croyants dans leur contexte. Et surtout qu'il soit compréhensible, d'où la question de la langue, on va peut-être
on
en
va
parler
y revenir dans
tout à l'heure, et un certain nombre de conditions évidemment. Et au-delà même de l'imam des cinq prières, cette vocation d'imam, surtout aujourd'hui dans le contexte actuel, il faut aussi que cette personne, cette référence entre guillemets chez les fidèles, puisse répondre à un certain nombre de questions. Parce que vous savez, les fidèles se tournent d'abord vers la mosquée, quand ils ont des questions, quand ils ont un événement, heureux ou malheureux, et ils ont besoin d'éclairage. Donc il éclaire aussi, donc il est le reflet du dernier messager dans cette notion de flambeau lumineux, d'éclaireur. Il donne les grandes lignes, les orientations, surtout pour celui qui prêche le vendredi. Donc effectivement, il y a des grades, il y a une hiérarchie scientifique, spirituelle. Le simple imam qui dirige les cinq prières, comme je viens de le dire, n'a pas besoin d'être un savant, un théologien.
Avec le respect qu'on a avec pour sa dignité
évidemment,
humaine.
Évidemment, puisqu'il porte en son cœur déjà le Coran et il dirige la prière. Donc il y a une certaine confiance qui lui a été faite et une responsabilité de diriger la prière qui est, je le rappelle pour l'islam, l'épine dorsale de la religion. Donc c'est dire l'importance et la charge et le poids de cette mission. Néanmoins, il y a des grades, il y a des niveaux, et le niveau supérieur étant celui du savant. Tout imam n'est pas un savant, le savant pouvant être un imam, tout prédicateur n'est pas forcément un savant encore une fois, et tout savant peut ne pas être un prédicateur, parce que la prédication demande aussi des compétences linguistiques, rhétoriques, pédagogiques, etc.
Cheikh Tariq Abou Nour, pardonnez-moi de vous poser cette question comme ça directement, mais comment naît la vocation d'être imam? Je m'adresse à vous comme le thérapeute de l'âme. C'est par inclination à l'humanisme, le fait par tendresse pour les êtres, par sympathie au sens étymologique du terme, partager un pathos commun et synchrone avec les autres humains, qu'on est imam ou il y a aussi une élévation spirituelle à être soi-même imam?
Alors, je pense qu'il y a les deux, hein. Vous avez bien raison. Effectivement, au-delà, évidemment, parce que c'est une fonction, comme je viens de le dire, assez difficile, assez compliquée, c'est une responsabilité très lourde, puisqu'il s'agit de représenter le dernier messager dans le temps et dans l'espace. Et il s'agit d'éclairer, il s'agit d'être sage. Et donc, au-delà de la compétence scientifique, évidemment, l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de ce qu'on appelle la tradition, les mutun, c'est-à-dire les différentes sciences religieuses qu'on a à apprendre pour assurer...
Solide,
évidemment, pour assurer justement cette noble fonction, cette lourde responsabilité, il y a une vocation. Sans cette vocation, on ne peut pas ni diriger la prière des fidèles, ni être à l'écoute. Parce que cette fonction demande une capacité d'écoute extraordinaire. C'est une thérapie, vous l'avez dit, puisque les fidèles viennent à vous, c'est pas au sens de nos frères chrétiens, la confession, non, mais la confidence, je veux dire. Les gens attendent de vous de la discrétion, de la sympathie, de ce que j'appelle la miséricorde, à la lumière du dernier messager qui était la miséricorde envoyée aux univers, comme nous dit le verset coranique. Et donc, dans ce sens, vous ne devez pas juger les fidèles, mais vous devez essayer de les comprendre et de répondre à leurs questionnements. Et je le sais, là, ça fait une vingtaine d'années que je pratique, que leurs questions sont diverses et variées. Il y a même parfois des situations difficiles, voire dangereuses, voire compliquées, de femmes seules, de filles célibataires, d'inceste, de problèmes de société, de problèmes de travail, de problèmes d'intégration, de problèmes de... voilà, l'humain dans
ça. Ça, nous parlons de la société française et du contexte actuel.
Mais de l'humain en général, qui a évidemment ses faiblesses, qui a sa complexité, hein, et je dirais pas schizophrénie, mais tout simplement sa complexité, sa dépravation, et aussi sa grande capacité, et ça c'est très important, de s'élever.
Bien sûr.
Et c'est une fonction de l'imam d'aider justement les gens à s'élever spirituellement et à reprioriser certains éléments. Parce que vous savez, nos fidèles parfois, ils se trompent de priorité. Ils ont tendance à suivre un certain simplisme, un certain formalisme, en oubliant le fond même de la religion qui est, rappelons-le, la moralité, le bon comportement, l'élévation spirituelle, pour être un élément positif, une valeur ajoutée dans la société dans laquelle on évolue.
Alors nous aurons à revenir tout à l'heure sur les questions de violence, le mot est plus qu'à la mode maintenant, de radicalisation, etc. Et nous verrons avec vous comment tout ça est pris en charge, et la prise en charge notamment spirituelle de la jeunesse. Mais continuons toujours dans cette partie-là. C'est prenant le fait d'être imam. Une journée type d'un imam, c'est quoi? Surtout quand, comme vous, vous êtes, et heureusement, un imam, pardonnez-moi le terme, gradé et savant, théologien. Et la théologie, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Comment passez-vous vos journées et en dehors de celles du vendredi?
Écoutez, c'est très simple. Effectivement, déjà, prenons la journée du vendredi. Juste avant, effectivement, le prêche proprement dit du vendredi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est m'employer à des réponses aux questions. C'est très important d'éclairer parce que chaque vendredi, je reçois un certain nombre de questions.
On prend rendez-vous avec vous?
Il y a de ça aussi, exactement. Donc, j'y reviendrai. Mais déjà, solennellement, on va dire, je réponds de façon comme ça, globale, à certaines questions intéressantes et importantes. Et je donne certaines orientations des sujets avant le vendredi, avant le prêche du vendredi. Et puis, le prêche du vendredi proprement dit, en ce qui me concerne, pour moi, je me suis donné comme mission de faire en sorte que le sujet soit toujours adapté à l'actualité, pour ne pas être, on va dire, en écart avec mon contexte.
Ni hors sol.
Exactement, c'est très important d'être dedans, d'être aware, comme disent les jeunes. Et effectivement, et de parler aux jeunes, puisqu'ils ont beaucoup de problématiques aujourd'hui, notamment, je ne dis pas seulement en banlieue, mais dans tout le territoire national. Il y a aujourd'hui la question de l'islam, comme vous le savez, pose beaucoup de questions.
Il y a, et même des questions épineuses.
Exactement, des questions très difficiles, sociétales, dues à au fait que l'islam de France est assez nouveau, qu'on a du mal à appréhender un certain nombre de questions. Et surtout, en ce qui me concerne, ce que je vois, c'est justement la concurrence avec cher Google et cher Facebook, donc le virtuel, qui fait que, et ça on doit l'avouer, hein, c'est notre faiblesse ici en France, on a à peu près 2500 mosquées en France, on a l'écrasante majorité des imams souffrent d'une précarité, je dirais d'abord financière, parce qu'on n'a pas un statut d'imam reconnu avec des salaires qui conviennent à cette noble fonction et qui permettent à l'imam...
Et une couverture sociale
adéquate, etc. Donc c'est un fait, c'est un constat, il est là. Il faut peut-être l'améliorer. On n'a pas encore de solution miracle ni magique. Ça relève de la gestion. Ça, c'est pas le
humble serviteur qui va... Et nous avions une émission précédente sur la formation des imams d'une manière générale. Mais là, c'est le cœur du sujet, j'allais dire. C'est la pratique.
C'est la pratique. Voilà, pour revenir à la pratique, mais c'est lié. Puisque bon, pour que cet imam puisse assurer sa mission avec l'excellence qui est due à cette mission, eh bien, il lui faut aussi des moyens. Parfois, ces moyens manquent cruellement, mais on fait avec. Donc, en ce qui me concerne, donc, le prêche du vendredi suit l'actualité. Après le prêche du vendredi, les gens viennent me voir pour un certain nombre sans rendez-vous. Et donc, avec un certain nombre de questions, soit suscitées par le prêche lui-même, soit qu'ils avaient, qu'ils venaient avec. Et on a aussi des personnes qui veulent se marier, qui veulent apprendre sur le mariage, qui veulent savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, pour être conformes à leur foi, tout simplement. On a des questions sur la finance, sur qu'est-ce que je fais de mon argent, comment je fais pour la prière au travail, etc. Donc un certain nombre de questions culturelles, pratiques, mais aussi sociétales, comportementales, qui relèvent de la logique, on va dire, de la logique dans notre vie, dans notre évolution, dans la société française, aussi complexe et variée que notre société française. Et donc on essaie d'y répondre aussi après le vendredi. Je fais en sorte aussi d'avoir une conférence ou un échange avec les fidèles de façon régulière, notamment le week-end, puisque les gens sont là, ça leur permet d'être posés et de poser leurs questions. Et on essaie aussi d'être présent sur le virtuel, comme je vous ai dit, qui est aujourd'hui un concurrent imprévisible, puisque je définis la fonction de l'imama avant Internet et après Internet. L'après Internet est beaucoup plus délicat puisque justement les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes, utilisent le plus simple qui est Internet et malheureusement sur Internet il y a tout et n'importe quoi et on tombe facilement dans l'embrigadement, dans l'endoctrinement, dans le sectarisme avec des réponses simplistes, du littéralisme et des personnes qui sont là, qui ont le temps pour faire n'importe quoi, dire n'importe quoi sur l'islam et utiliser entre guillemets le contexte de nos banlieues françaises, cette précarité économique, sociale et intellectuelle pour capter un certain nombre de jeunes vers ces sectes déviantes et travailler sur ces ondes négatives, cette haine qui est là pour encore une fois les amener vers une rupture parfaite et complète avec leur milieu, d'où le phénomène du radicalisme, de l'extrémisme dont on souffre aujourd'hui et qui est un vrai phénomène, non pas seulement français, mais mondial. C'est le mal moderne, hein, c'est le mal moderne. Et à travers les prêches, on essaye justement d'avoir ce contre-discours pour contrecarrer ces idées et ces idéaux. Mais comme vous pouvez l'imaginer, vous êtes aussi un des acteurs de ce grand espace culturel et cultuel. Il est très difficile de contrecarrer.
Je ne suis dans cette affaire que le médiateur entre vous-même et les auditeurs. Merci, cher Tariq Abou Nour, d'être avec nous. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et tout particulièrement aujourd'hui, nous parlons de l'imama, de cette fonction, de cette vocation, de cette mission aussi. Et elle est incarnée aujourd'hui par le cheikh Tariq Abou Nour, imam théologien, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. En vous écoutant, j'ai eu cette petite anecdote rapportée par le recteur de la mosquée de Bordeaux. Et il nous avait dit une fois qu'il avait reçu quelqu'un qui lui a posé une question quelconque. Et ce qui est étonnant dans la psyché des personnes qui questionnent, c'est qu'elles s'attendent à avoir la réponse la plus drastique ou la plus radicale, si je puis dire, ou la plus dure. Et donc, quand le recteur, donc cheikh Tariq Obrou, lui avait donné sa réponse, lui dit « Oui, mais ça, c'est votre réponse, cher, mais que dit l'islam ?» Et donc, la réponse de Tariq Obrou était « Moi, monsieur Islam, je ne connais pas, je vous donne ma propre réponse. » Avez-vous, cher Tariq Abou Nour, connu des situations un peu comme ça?
Tout à fait, beaucoup, beaucoup, malheureusement, beaucoup, tout à fait. On a deux phénomènes aujourd'hui, pas seulement en France, hein, c'est l'humain qui est comme ça, hein, c'est ce que je peux appeler la foi du charbonnier. C'est-à-dire on essaie d'apprendre sans comprendre et on a l'impression que la religion c'est binaire, c'est oui ou non, haram, halal, licite, illicite. Et on a aussi cette, entre guillemets, cette mauvaise compréhension due à l'ignorance bien sûr, que tout doit être difficile, tout doit être compliqué pour que ça soit islamiquement compatible. Sinon c'est pas islamiquement compatible. Donc on oublie que le Coran nous rappelle que cette religion est facilitée. Que Dieu nous veut la facilité et non la difficulté, et que l'objet même de la religion, comme nous le rappelle la sourate de Taha, nous t'avons révélé ce livre.
La sourate 20.
La sourate 20, nous t'avons révélé ce livre, ce Coran, pour que tu sois dans le bonheur.
On t'a pour pas que tu révélé. Sois pas malheureux.
Voilà, on t'a pas révélé ce livre pour que tu sois dans l'amertume ou le malheur. C'est très important. Donc, l'objet même d'une religion, c'est de vous relier à votre prochain et aussi de vous élever spirituellement, c'est de l'épanouissement. Et donc, les gens croient qu'il faut de la difficulté pour pouvoir être conforme à sa religion. Et donc, quand vous leur donnez la réponse de l'islam sur tel ou tel sujet, il est étonné, il est offusqué même, il se dit, mais est-ce que c'est du laxisme? C'est pas du laxisme. On a, grâce à Dieu, dans cette religion de l'islam, des ouvertures, des facilités. Si, et seulement si, on a justement cette capacité d'aller vers les vrais savants, les référents, de les questionner, et ne pas aller vers cher Google ou cher Facebook. Et si, et seulement si, on les écoute avec attention et respect. Mais si on se dit à chaque fois, oui, mais celui-là, il est comme ça, et celui-là, c'est son propre avis, et celui-là, il est vendu, entre guillemets. À chaque fois qu'il y a des théologiens, des référents, qui ont des réponses, on va dire, authentifiées, argumentées, contextualisées, on les traite de, entre guillemets, vendus ou laxistes ou des choses comme ça. Et ça, c'est un problème dû à quoi, justement? Il est dû à ces sectes déviantes qui, pour justement orienter les gens vers elles s'amusent par différents moyens, différents arguments, à décrédibiliser les savants, à décrédibiliser les imams, à décrédibiliser les institutions pour créer la rupture entre les jeunes et ces référents. D'une façon générale, pour justement dire aux jeunes, ben, tout cela, ils valent rien. Tout ce qu'ils vont vous dire, ils sont vendus, ils sont domestiqués, instrumentalisés, etc. C'est ce qu'on entend chez,
oui,
chez les jeunes.
Oui, au pouvoir.
Voilà, exactement. On pas parler de complotisme, de pas mal de choses qui sont, voilà, qui sont dans le jargon aujourd'hui, d'une certaine jeunesse en révolte ou en rupture avec le système, entre guillemets. Et donc, la religion, malheureusement, elle est aussi victime de ce genre de comportement assez radical, finalement, avec les référents. Et donc, on a du mal avec, quand quelqu'un vient et vous lui donnez, entre guillemets, la bonne réponse, eh ben, je vous donne un exemple pour que nos auditeurs et nos auditrices soient éclairés. Je ne sais pas s'il est édifiant, mais dans tous les cas, notre ami le chien, par exemple.
Oui.
Notre ami le chien,
fidèle
compagnon de l'homme. Je le dis et je le répète, j'ai même fait un prêche sur cela. Bien, c'est un point de détail, mais il n'est pas l'ennemi de l'islam, contrairement à ce que croient beaucoup de nos co-religionnaires. Il a été cité dans le Coran, dans la sourate de la caverne. Il a été cité aussi dans les traditions...
Avec les sept dormants des
avec
fesses,
comme on le dit, récit des sept dormants, exactement. Oui. Il a été cité aussi dans les traditions quand une personne lui a donné à boire et que Dieu l'a remercié pour cela en lui faisant hériter du paradis. Mais là, certains de nos co-religionnaires croient à tort qu'il est un ennemi, qu'il est un monstre. J'ai parlé de la question de la souillure du chien. J'ai dit que pour nous, par exemple, dans la vision de l'école malikite, par exemple, le chien est propre, sa salive est propre. Ça a choqué quelques co-religionnaires parce qu'ils sont habitués à s'éloigner des chiens, à faire toutes les précautions pour... Et ça leur crée de la gêne, surtout avec leur voisinage.
Oui.
Ça crée de la gêne à des personnes qui travaillent dans le gardiennage. Le chien aveugle. J'ai parlé d'une question qui m'a été posée sur le chien aveugle. Certains de nos amis qui conduisaient les bus ont refusé l'accès à ces chiens aveugles, soi-disant parce que leur religion interdit cela.
Oui.
Enfin, fait partie de l'ignorance.
Vraiment, vous posez le doigt sur quelque chose d'important. Pour faciliter en principe la vie en société d'une manière harmonieuse, intelligente, dans un pacte civique d'amitié et de fraternité, on a quelques-uns, sous prétexte d'une compréhension erronée de tel ou tel précepte de la religion, on arrive à des questions de détail et qui minent cette vie en commun. Les chiens guides d'aveugles, on devrait leur en savoir gré, on devrait peut-être les cajoler, etc. Or, il se trouve que ce n'est pas le cas et donc il y a lieu d'apaiser ces consciences culpabilisées par je ne sais trop quel discours.
Tout à fait.
Écoutant, je me suis rappelé quelques historiographes et même des théologiens qui disaient ce qui a caractérisé en tout cas la tradition religieuse islamique de par l'histoire, c'était sa souplesse et sa simplicité. Et là, on voit que c'est devenu quelque chose de drastique, de dur et qui ne souffre aucune négociation, en quelque sorte.
Vous avez ces amateurs de la chicanerie aussi, hein, qui, on va dire, cherchent la petite bête, alors qu'en islam, on sait qu'on a des sujets prioritaires et que les sujets prioritaires, à mon sens, sont les sujets du bien vivre ensemble, du bon comportement, de la beauté, puisqu'on ne peut aujourd'hui... C'est mon avis personnel, mais aussi l'avis d'un certain nombre de théologiens. On ne peut représenter dignement notre message, notre religion et le dernier messager, si ce n'est par la beauté. La beauté, je dirais même extérieure et intérieure.
Oui,
la beauté
conformément de comportement. À l'aphorisme prophétique qui dit que Dieu est beau,
Dieu
aime
est beau,
la beauté.
Il aime la beauté, exactement. Et on oublie souvent cette tradition au profit de plusieurs autres traditions au verset, contextuelles ou conjoncturelles.
Comment faites-vous, parce qu'il faut être un fin psychologue et d'une grande patience, pour expliquer tranquillement que cette dichotomie licite-illicite est asphyxiante? Comment faire pour ne pas ramener l'élévation spirituelle, le bon comportement, le doux conseil comme il est dit, parfois prodigué à quelqu'un quand il le demande, comment ramener le message premier de la tradition religieuse qui doit être celle d'être au service de l'humanité. C'est comme ça que l'adoration de Dieu doit être comprise et conjuguée, à ce que les gens ne prennent pas ça comme... si je fais telle chose, je vais être rétribué et donc je jouis des délices paradisiaques. Et si je fais telle autre chose, je vais être damné et périr par le feu de l'enfer.
Alors, je vous réponds par deux éléments qui, à mon sens, sont très importants et éclairants. Le premier, c'est quand on analyse le discours coranique, on trouve qu'il y a trois composantes du message. La composante qui s'appelle le livre, la composante qui s'appelle la sagesse, et la composante qui s'appelle la purification. Kitab, hikma, tazkiya. Très important. Donc, et ça se répète à chaque fois dans plusieurs versets du Coran. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard. C'est pour nous inciter à comprendre un message très important qui est l'association du livre, c'est-à-dire du texte, avec la sagesse, c'est-à-dire le contexte, et avec la purification, c'est-à-dire l'éducation spirituelle. Si on n'a pas ces trois piliers, la considération du livre dans son contexte, avec la sagesse, et surtout parler au cœur, la spiritualité, qui est le fond même de cette religion, la station de l'excellence en islam, que certains oublient, alors que c'est même le fondement même. On ne peut se livrer à des actes d'adoration de forme sans ce fond, sans ce cœur. La question de l'intention, évidemment, est capitale. Donc, faire comprendre à nos co-religionnaires cet élément-là, c'est effectivement une mission difficile, pour une raison très simple. C'est que, pendant longtemps, ils ont été conditionnés par un discours binaire, par des idéologues qui avaient des intérêts autres que la religion et qui ont proliféré dans nos banlieues, profitant d'une situation économique, sociale et politique qui était favorable pour eux, profitant de ce qu'on peut appeler la liberté d'expression, avec un certain abus, ils ont abusé de cette liberté, pour justement propager un discours haineux, un discours de rupture, un discours binaire. C'est même ce qu'on voit chez nos jeunes. Et donc, pour déconditionner nos jeunes et nos moins jeunes et leur rappeler la réalité de la religion, qui est celle, ces trois-là, couplées, ces trois-là, avec le juste milieu, ce qu'on appelle le juste milieu, qui est même inversé. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Ce juste milieu, c'est la considération du texte avec sagesse, c'est-à-dire l'utilisation aussi de la raison, le bon sens, et avec la spiritualité. Le prophète de l'islam, le premier imam, avait ce livre, plus la sagesse qu'il adressait à ses compagnons de différentes formes, avec une pédagogie, avec une chronologie évolutive, éducative et pédagogique, et puis la purification, parce qu'il était là en modèle, et il leur permettait de goûter avant de pratiquer. Vous savez, les 13 premières années de la révélation à la Mecque étaient justement consacrées à cet amour de Dieu, à cet amour du Créateur, par la méditation, par la connaissance.
C'est vrai que les versets mécois parlaient davantage de miséricorde, d'amour, de bonté, de miséricorde.
Tout à fait. Pour qu'on puisse faire aimer ce Créateur aux créatures. Et puis ensuite, les 10 dernières années de la révélation à Médine ont été consacrées à l'organisation de la nouvelle société qui a été créée et évidemment de tout ce qui est droit, ce qu'on appelle le droit. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a un long travail qui doit être fait, donc il nous faut de la patience. Je ne pense pas qu'on puisse en finir avec ce discours binaire dans l'immédiat. Il faut, à mon avis, 1, 2, 3 générations, donc beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, avec ces nouveaux cadres religieux qu'on a aujourd'hui, donc en France, pour qu'on puisse petit à petit remplacer ces discours binaires, ces discours qui vont rebuter plus que pousser les gens à aimer et à pratiquer correctement et de façon apaisée leur religion. Il faut plusieurs générations, à mon avis. Il faut de la patience, il faut plusieurs générations, et il faut surtout revenir à un modèle d'imamah qui respecte le contexte. Oui. Et la première chose à laquelle je pense, c'est la langue.
Bien sûr. Voilà. Et chez les puristes de la langue française, on distingue plusieurs de quelques. Si on est optimiste, il vaut mieux dire quelques générations, parce que plusieurs...
Voilà. quelques générations.
Quelques générations, peut-être même 2 ou 3 ou 1, tout dépend, le plus grand
Après,
voyage...
Après, si on en a avant... Tant mieux.
Bien entendu, c'est vrai que tout cela doit être couplé aussi à la connaissance, à la culture, à l'éducation, à l'ouverture sur le monde, à l'altérité confessionnelle. Et dans vos prises de parole, dans vos causeries, dans vos prêches, il y a, et aussi dans votre engagement, il y a aussi cette ouverture sur les autres traditions religieuses, ce que j'ai appelé là à l'instant l'altérité confessionnelle. Et là, la jeunesse musulmane commence à y être sensible.
Tout à fait, tout à fait. De plus en plus. Moi, je suis dans le dialogue interreligieux depuis un certain nombre d'années. Pour moi, le dialogue interreligieux est un pilier de la compréhension mutuelle, de l'échange fraternel qu'on doit avoir avec l'autre. Et je dirais même que pour l'islam, c'est quelque chose qui est dans son ADN. Puisqu'on peut trouver dans le Coran, par exemple, ne discuter avec les gens du livre que de la manière la plus douce. On peut aussi trouver l'exemple du dernier messager qui a invité dans sa propre mosquée les chrétiens de Najran, une ville du sud-ouest de l'Arabie, pour justement échanger aimablement avec eux, avec bienveillance, sur un certain nombre de sujets. Évidemment, ils sont restés dans leur religion. On les a pas obligés de changer de religion. Conformément au verset, nulle contrainte dans la religion. Et l'exégèse de ce verset, justement, est importante, puisque ce verset, nous dit-on dans les différents livres d'exégèse, il a été révélé à propos d'un Médinois qui lui et ses deux enfants étaient chrétiens. Et quand il a embrassé la nouvelle religion de l'islam, il a voulu contraindre ses deux enfants à avoir la même religion. Ses deux enfants sont partis se plaindre au dernier messager et ce verset a été révélé, nulle contrainte dans la religion.
La voie droite se distingue clairement de l'erreur.
Donc il s'agit ici de comprendre ce que c'est que le libre arbitre, ce que c'est que la liberté confessionnelle. Et il s'agit aussi d'éduquer la jeunesse, mais c'est aussi le rôle des parents. Il ne faut jamais l'oublier, l'imam à lui seul ou le cadre religieux à lui seul, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que les parents aident à cette éducation dès la petite enfance, l'éducation sur l'altérité. On a beaucoup de mal, je dirais, je généralise pas, mais on a beaucoup de mal chez nos co-religionnaires dans cette altérité, qu'elle soit intra-religieuse ou inter-religieuse.
Oui.
Et c'est encore une fois relative à l'ignorance.
Et comment faites-vous, cher Tariq Abou Nour, à ceux qui se prévalent exclusivement d'un autre passage, parce que c'est la méthode elle-même qui est problématique, c'est le fait d'extraire hors contexte tel ou tel verset. Là, vous avez expliqué pour le nul contrainte dans la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur, donc le verset 256 de la sourate 2. Et en revanche, ceux qui se prévalent uniquement d'eux ne prenaient pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Fin de citation du verset, sans le relativiser au contexte de l'époque. Quelle est la pédagogie qui est la vôtre pour leur expliquer ça?
Ah, j'ai fait plusieurs prêches sur la compréhension des textes, c'est-à-dire le rapport au texte, le texte scripturaire, je parle, c'est-à-dire le Coran et la tradition. Eh bien, cet exemple que vous citez est de loin le meilleur, puisqu'il vous donne un petit peu l'impression que, quand vous prenez un verset isolé comme ça, il vous donne l'impression que il y a une animosité, il y a une guerre qui est déclarée contre tout ce qui n'est pas islam. Or, ce n'est pas vrai. En témoigne un autre verset, qui est, on va dire, cette fois immuable et générique, et qui donne la règle, puisque le verset que vous venez de citer est un verset contextuel,
et conjoncturel,
lié à une conjoncture qui est la guerre, et lié justement à une compréhension qui est limitée à une alliance spécifique contre les intérêts des musulmans, ce que nous rapportent les exégèses, donc je ne rapporte rien de moi-même. Le verset qui est immuable et qui justement, je ne vais pas dire abroge, mais qui donne la règle, est le suivant dans la sourate Al-Mumtahina, la mise à l'épreuve, qui est « Dieu ne vous empêche pas à l'égard de ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, donc, premièrement, et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, deuxièmement, d'être équitable et bienfaisant envers eux, car Dieu aime les bienfaisants. Il vous empêche d'être allié uniquement de ceux qui vous ont combattu dans la religion, ceux qui vous ont chassé de vos demeures ou ceux qui ont aidé à votre expulsion. À cela, il ne faut pas s'allier. » Donc vous voyez que ce verset-là explique, détaille et donne la bonne compréhension de ce que doit être la relation. Et ce verset, encore une fois, il a été révélé à propos de la mère d'Asma, qui était polythéiste, qui est venu justement saluer sa fille et lui donner des cadeaux. Sa fille avait été gênée parce que les polythéistes à l'époque étaient en guerre contre le prophète et ses compagnons, persécutés le prophète et ses compagnons. Et donc, elle est venue demander la permission au prophète, au dernier messager. Et ce verset a été révélé. Et dans ce que rapporte Muslim dans son authentique, il lui a dit « Sili ummaki, renoue avec ta maman, sois bienfaisante avec ta maman, prends soin de ta maman. » Et donc la différence de la religion... Exactement, la différence de la religion n'est pas une raison pour couper les liens ou pour manquer à son devoir de bienfaisance, de bienveillance et de bon comportement avec le prochain. Et je dirais même avec les créatures, puisque si on médite dans les textes de l'islam, on voit même vis-à-vis des animaux, vis-à-vis même des objets inanimés, et même en temps d'hostilité, vous savez, le prophète, même en temps d'hostilité, leur a dit « Ne coupez pas d'arbres fruitiers, n'abattez pas d'arbres fruitiers et ne détruisez pas de constructions. » Donc rien à voir avec ce qu'on entend
les
aujourd'hui.
Les ermitages, exactement, les lieux où l'on adore,
exactement,
Dieu, etc. Ça, ce n'est pas connu, hélas, de la monstruosité qu'est Daesh.
Tout à fait.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission « Questions d'Islam ». Aujourd'hui, c'est un entretien avec l'imam, Cheikh Tariq Abou Nour, non seulement sur la vocation, la fonction, la mission, l'ambition même et le statut de l'imam intellectuel et théologien, C'est le cas de Cheikh Tariq Abounour, qui préside aussi l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris et à Paris. Nous avons abordé donc ces questions épineuses, problématiques de violence, de compréhension du texte pris hors contexte. Finalement, puisque nous avons abordé cette question, comment dévitalisez-vous, comment déminéralisez-vous, comment faites-vous pour que ces passages dits belligènes, de facture martiale, certains les considèrent comme des passages intrinsèquement violents, ne soient pas des versets mobilisateurs pour ce que nous appelons maintenant la radicalisation de la jeunesse musulmane française? Je ne parle même pas de ce qui se passe de par le monde.
Bien sûr. Alors, pour cela, il faut revenir un tout petit peu à l'histoire, quelques secondes. Vous savez, la première secte qui a émergé en islam, prônant ce littéralisme aveugle, belliqueux, c'est le Khawarij, les Khariji, littéralement ceux qui sont sortis des rangs.
Les sortants, les sécessionnistes, voilà, les séditieux.
Et cette première scission, si vous voulez...
qui ne sont ni chiites ni sunnites,
pour que nos amis comprennent. Il n'y avait pas encore cette dénomination. On est encore au premier siècle. Voilà. On est encore au siècle des compagnons, ce qu'on appelle les compagnons du prophète. C'est-à-dire on est vraiment au premier siècle, on est au tout début. Cette secte a émergé et justement cette secte, elle était composée de ce qu'on appelait en arabe le Qurra, c'est-à-dire les mémorisateurs du Coran, qui ont appris le Coran par cœur, mais ce Coran, finalement, il ne dépassait pas leur gorge, comme l'avait exprimé dans une tradition prémonitoire le dernier messager lui-même. Et donc, ces gens-là, si vous voulez, au nom du Coran, ont assassiné quelques compagnons. Et je rappelle au passage qu'ils ont assassiné le quatrième calife, gendre et cousin du prophète, Ali ibn Abi Talib, pour vous donner...
En 661.
Exactement. Donc on est vraiment encore loin de cette scission sunni-chiite. D'accord ? Donc on est au tout début. Et ces khawarij, si vous voulez, ils prenaient des versets et ils les interprétaient de leur façon. Par exemple, pour justifier l'assassinat de Ali, ils ont dit « le jugement n'appartient qu'à Dieu ». Voilà. Un certain Abdullah ibn al-Abbas, donc éminent exégèse, éminent interprète du Coran, leur a dit « Mais que faites-vous alors du verset où il autorise l'arbitrage entre époux dans les conflits conjugaux ?» Eh bien, une partie d'eux a été complètement déboussolée de voir que, voilà, que dans le Coran, il peut être expliqué par d'autres versets. Et donc, le danger de cette secte-là, il est important à relever ici parce que, justement, elle a utilisé le texte contre le texte. Elle a utilisé, et ce n'est pas nouveau, même dans les religions du livre en général, nous avions justement cette violence. Je rappelle les croisades, je rappelle les inquisitions, les différentes inquisitions, etc. Donc ce n'est pas nouveau finalement, l'instrumentalisation du texte.
Sauf que l'ère d'Internet de nos jours, la modernité, l'ère contemporaine, fait en sorte que ces affaires qui ont existé, heureusement, ont été réglés une bonne fois pour toutes et qu'il faut, et donc il vous incombe à vous, certains Al-Kabounour et vos confrères, j'allais dire, de prendre à bras le corps ces difficultés.
Tout à fait. Et pour vous répondre encore de façon plus détaillée, je disais que instrumentaliser le texte pour des fins terrestres, ça existe malheureusement toujours et surtout par des idéologues aujourd'hui qui, en nom de l'islam, vont dévoyer, vont trahir, je dis bien le mot et je le mesure et je l'assume, trahir l'islam, trahir le dernier messager.
Vous avez raison, parce que tout être innocent décapité ou tué, c'est, au nom de cette religion, c'est l'islam qui est décapité, trahi et
nous-mêmes, on est choqués, puisque justement, le Coran, parmi les finalités, les cinq grandes finalités de la religion, c'est la préservation de la vie. Tuer une âme innocente, c'est tuer l'humanité tout entière, nous dit le Coran. Même Coran.
Verset 32, sourate 5.
Exactement. Et il nous dit, et sauver une vie, c'est sauver la vie de l'humanité entière. C'est très important. À maintes reprises, le Coran nous rappelle la sacralité de la vie. Et nous demande, nous oblige, nous ordonne à être utile, à servir, à avoir le bon comportement. Et même vis-à-vis des animaux, il nous rappelle, la tradition nous rappelle qu'une personne est entrée en enfer à cause d'une chatte. Vous imaginez ? Donc un animal qu'elle a enfermé sans lui laisser la possibilité de manger et sans lui laisser à manger. Donc Vous voyez la bienveillance vis-à-vis même du règne animal. Donc comment on peut imaginer des gens, au nom de cette religion dont je viens de citer quelques textes, puissent commettre l'irréparable et porter atteinte à la vie que Dieu a rendue sacrée? Maintenant, comment nous on fait dans la pratique? Les prêches du vendredi, où vous avez évidemment de l'affluence, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a aussi le téléphone arabe, c'est-à-dire les gens passent le message à travers nous. Ils nous écoutent beaucoup parce que le prêche du vendredi est un moment capital, c'est le message de toute la semaine. On essaye aussi d'expliquer les textes, de donner des exemples de la bonne compréhension du texte.
Je vous ai entendu dans un autre contexte dire que vous pouvez joindre ou atteindre 14 000 personnes, c'est énorme, c'est beaucoup.
En période de pointe, on a effectivement beaucoup de gens.
Parce que vos prêches sont diffusées en même
déjà,
temps.
Déjà, physiquement, effectivement, il y a ce chiffre-là. Et après, au-delà, ce n'est pas le cas de tous les imams, malheureusement, on a une chaîne YouTube donc, qui diffuse ces prêches-là pour permettre à ceux qui n'ont pas été dans ce prêche aussi d'écouter et d'apprendre. Parce que c'est aussi à travers le prêche du vendredi qui est précis et concis qu'on a les grands messages de la semaine, qui sont les messages d'actualité, le message du texte et de son contexte. Et pour aussi abonder dans ce sujet de la mauvaise compréhension du texte ou de l'instrumentalisation du texte, nous donnons des exemples aux fidèles. Et nous donnons à réfléchir aux fidèles et à leur dire « Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?» Et j'ai fait un prêche dans ce sens qui s'appelle « L'amour de la patrie ».
Et qui est une marque de foi selon un hadith.
Mon but dans ce prêt, c'est d'argumenter selon le texte du Coran et de la Sunna que c'est une obligation de la foi, qu'on ne peut pas prétendre qu'on est croyant en étant dans le repli, en étant dans la rupture avec sa patrie, puisque sa patrie, je le rappelle, elle vous assure la sécurité, elle vous assure votre confort et celui de vos enfants, etc. Donc, notre religion nous impose ce qu'on appelle la gratitude. La reconnaissance. Et donc, par reconnaissance, vous devez aimer votre patrie, comme le dernier messager, d'ailleurs, a aimé la Mecque, bien que la Mecque soit une terre, à l'époque, polythéiste, je rappelle.
Qu'il a chassé, qu'il a persécuté.
Et il a lancé un appel d'amour à cette Mecque, en tant que personne. « Oh, la Mecque, tu es ma chère patrie, je t'aime. » Comme ça. « Si ce n'est ton peuple qui m'a chassé, je ne serai jamais sorti. » Chemin faisant vers Médine. Et donc, ça prouve quand même que dans notre tradition, l'amour de la patrie est inscrit ad vitam aeternam et que c'est un pilier de notre foi puisqu'il s'agit de la reconnaissance. Et justement, comment pratiquer cette reconnaissance? C'est en étant une valeur ajoutée positive dans ce pays. Puisqu'il s'agit aussi de montrer que nous, musulmans, on n'est pas source de conflits ou de zizanie ou de désordre. Bien au contraire, on peut être source de bienfaisance, de sagesse,
d'harmonie,
d'apport
d'aide,
économique,
de
d'apport
solidarité.
Social, exactement, de générosité, toutes nos valeurs. Et dans certains prêches, je fais exprès de citer des valeurs, des prêches sur la générosité, des prêches sur l'amour, le respect, la magnanimité, le pardon, pour que les gens aussi puissent avoir la bonne lecture de leur religion. Parce qu'on l'a, on les a malheureusement, on a mis de côté les valeurs, les belles valeurs de l'islam pour de l'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologues qui ont utilisé ces minbars, ces chairs, pour justement faire leur propagande, faire leur prosélytisme. En islam, il n'y a pas de prosélytisme. On est des témoins, on n'est pas des juges. Je dis ça à chaque fois. Et chose intéressante aussi, à la fin du prêche, je prie pour la France. Je prie pour le monde, je prie pour la paix dans le monde, puisque la paix est la règle en islam. Sans la paix, on ne peut pas avoir du bien vivre ensemble, on ne peut pas avoir de prospérité. Je dirais même que la vie est impossible.
Oui. Alors, cette allégeance, la loyauté, l'amour de la patrie, vous le dites, et c'est très bien ainsi, et notamment pour la jeunesse qui pense être à la marge ou exclue, et que pour les toutes dernières minutes qui nous restent, alors que le sujet est tout aussi important, pour ceux qui viennent vous dire « oui, mais moi je pense qu'il y a, peut-être à tort de leur point de vue, et vous allez nous répondre, je pense au primat de la loi religieuse, de la loi divine, sur la loi commune et la loi positive, la loi de la République. Qu'est-ce que vous leur répondez?
On a des jeunes qui nous disent ça, vous savez, moi je laisse les gens libres de penser et de questionner, puisque je leur dis souvent qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Parce que si vous ne la posez pas à moi, ils vont la poser sur Cher Facebook et Cher Google, et c'est pire encore, ils vont recevoir...
On trouvera des réponses.
Ils trouveront malheureusement les réponses qu'ils cherchent dans le sens de la haine, malheureusement, que certains peuvent porter vis-à-vis du système ou de ce qui représente pour eux l'oppression. Il y a de ça, mais il y a aussi l'autre question, on est en terre de guerre. Pour certaines personnes, ils se considèrent encore en guerre. Ils sont encore dans une vision un peu primitive, binaire du monde. Donc pour la première et la deuxième question, ma réponse est très simple. Je leur dis pour ce qui est du culte, évidemment, vous suivez ce que prescrit votre religion de façon scrupuleuse. Mais pour ce qui est des affaires de l'État, on n'est pas dans un État musulman, on est dans un État laïque. Et donc on doit respecter les lois en vigueur. C'est notre, entre guillemets, garde-fou. Sinon, chacun va faire ce qu'il veut, comme il veut. Et donc, il s'agit de notre bien vivre ensemble dans notre société plurielle, qui, je le rappelle, est une société laïque. Il faut considérer cela. Et pour le deuxième élément de terre de guerre, j'ai fait plusieurs prêches sur cela, en disant que cette division binaire du monde n'a absolument rien à voir aujourd'hui, est complètement caduque et nul et non avenu.
Et obsolète.
Et obsolète, bien sûr, parce que tout simplement, il y a entre les États ou les pays aujourd'hui, ce qu'on appelle les États-nations, et l'Occident, des accords de paix, de bon voisinage, voire même de collaboration dans différents domaines. C'est logique, c'est normal. Quand on voit la signature du pape avec le Cheikh Al-Azhar, dans un pays musulman, sans donner à cela de connotation politique, je dirais c'est un pas en avant dans les relations qui doivent être bonnes, qui doivent être bienveillantes.
Avec l'engagement de la construction d'une église cathédrale sur place.
L'essentiel aujourd'hui, c'est de construire ensemble un avenir meilleur. On est dans un même bateau, qu'on soit chrétien, juif, musulman, athée, agnostique, bouddhiste, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est le respect de l'autre. C'est comment construire ensemble un avenir meilleur via nos valeurs communes. On a des valeurs communes. Ce qui nous rattache les uns aux autres est plus fort, et je dirais même plus nombreux. Enfin, on a plusieurs valeurs, plus nombreuses valeurs sont celles qui nous attachent. Soyons comme, et ce sera mon mot de la fin, soyons comme l'abeille. L'abeille cherche le beau. L'abeille cherche le meilleur pour justement faire sortir ce qui est beau, encore une fois, pour servir. Ne soyons pas comme la mouche qui va chercher ce qui est nuisible, ce qui est laid. Et elle est elle-même nuisible. Donc soyons comme l'abeille et essayons de construire ensemble, essayons d'être utiles et dans le service. La tradition prophétique nous dit les plus aimés à Dieu sont ceux qui sont au service des créatures. Il n'a pas dit des musulmans, il a dit des créatures.
Et les plus utiles.
Voilà. Et les plus utiles à ces créatures. Voilà.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Cheikh Tariq Abounour. Vous nous avez à la fois édifiés et instruit de ce que vous dites et de ce que vous faites. Et je crois que la nation vous en sera gré. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.